voix nue. Cette semaine, Rémi Dybowski-Douat rencontre Edoui Plenel. Ce soir, Mediapart, une seconde jeunesse.
Bonsoir Edoui Plenel.
Bonsoir.
Vous nous accueillez, et je vous en remercie, au cœur de la rédaction de Mediapart. Autour de nous, des livres et deux étages en dessous, des journalistes au travail. Mediapart est passé entre juin 2008 et aujourd'hui de 8000 abonnés payants à 170 000. Dans un contexte de crise de la presse, c'est considérable. Et tout cela s'est fait ici, entre ces murs. Est-ce qu'aujourd'hui, il revêt pour vous une importance particulière ?
Oui, ce lieu nous a accompagnés, y compris à beaucoup jouer sur le moral des tout premiers. On était 25 au départ. Quand on a travaillé sur le projet Mediapart en 2007, on était au fin fond d'un hangar dans le 11e arrondissement. Et ce lieu, qui est une sorte de pépinière d'entreprise de conçue par la régie immobilière de la ville de Paris, a été réalisé dans le 12e arrondissement et on était les premiers locataires. Il y a quelque chose qui me plaisait bien dans ce lieu, c'est qu'il était destiné, et il y a d'ailleurs toujours différents métiers, il y a des menuisiers, il y a des gens qui travaillent le métal, il y a aussi des agences de communication ou de design. Et en fait, il était lié, dans le projet initial, à la filière bois. Nous sommes près de la rue du Faubourg Saint-Antoine, qui est historiquement, dans le Paris populaire, le lieu où il y a des meubles, mais où il y a des ébénistes. Il y a le lieu du bois, de l'artisan, de l'atelier. Et nous avons fait, au fond, un atelier du journalisme. Et il y a autre chose qui m'a tout de suite ému sur cet emplacement, en dehors du fait que c'est lumineux, que ce sont des espaces ouverts, c'est des espaces industriels, c'est en effet des ateliers de travail. Quelque chose qui nous a beaucoup plu, on est tout près de la rue d'Aligre, mais surtout on est à l'angle de la rue Crozatier et de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Et c'est vrai que j'ai une tendresse pour ce que j'appelle le passé plein d'à présent, le présent du passé. Nous sommes au lieu, et il y a une plaque qui le montre, où le député Baudin est mort sur la dernière barricade de résistance au coup d'État qui va donner Napoléon III, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Là, tout de suite, il est mort là. C'est ce député qui s'est dressé pour dire non, et un geste dont on a déjà parlé, savoir dire non. C'était un sacrifice sur le moment inutile, mais le député Baudin, est, par les journalistes justement, est devenu le symbole de la résistance au pouvoir personnel. Il est aujourd'hui au Panthéon, le cher député Baudin. Il y a eu une pétition faite par le journaliste Delescluze, qui lui-même mourra au moment de la Commune de Paris. Et quand nous avons annoncé le projet de Mediapart, c'était avant d'être ici, c'était le 2 décembre 2007, pour faire un bras d'honneur au présidentialisme, au césarisme, au pouvoir absolu. Et quand nous trouvons, quelques semaines après ce lieu, nous nous trouvons là, tout près, d'un sacrifice populaire. Voilà, je trouve qu'il y a toutes sortes de résonances, on est dans ce parti. En plus, c'est le quartier de toutes les révolutions parisiennes du 19e siècle. Des soulèvements, on l'oublie, les Trois Glorieuses, ça se passe ici. C'était un soulèvement contre des ordonnances qui décidaient de mettre fin, et elle était fragile et elle était très limitée, à la liberté de la presse. Bref, voilà, je suis bien ici et j'aimerais bien qu'on arrive à continuer à s'y étendre parce que, évidemment, l'entreprise, on a commencé à 25, on est aujourd'hui 95.
Donc vous l'avez souligné, il y a l'aspect historique, mais vous avez commencé par la vocation de brassage que ce bâtiment a en lui-même, en son sein, dans la diversité des professions qui l'accueillent. Vous avez écrit que vous souhaitiez, après Le Monde, descendre de l'estrade. Est-ce que finalement Mediapart, c'est ça ? C'est être descendu d'une estrade ? Et puis ça me donne l'occasion aussi de m'interroger, étiez-vous au Monde sur une estrade ?
Quand j'ai démissionné, avant de quitter Le Monde, j'ai dit revenir aux joies de l'écriture d'abord. Mettre fin à ce malentendu où J'ai pris des responsabilités, contraintes, j'allais dire, dans un journal qui était certes le mien, mais qui n'est pas celui que j'avais inventé, et où je bousculais, y compris une partie de l'histoire de ce journal, de ses pesanteurs, de ses lourdeurs, de ses conservatismes. Et moi, certains me voyaient sur un piédestal, ou sur une estrade, ou sur une tribune, mais moi, je ne me voyais pas comme ça. Je me voyais toujours comme un artisan, comme quelqu'un qui est dans ce métier comme un engagement, comme une responsabilité, un métier qui vous requiert, qui vous occupe. Et donc, avec Mediapart, et je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec Laurent Mauduit, avec François Bonnet, avec Marie-Hélène Smiéjean, je parle des principaux cofondateurs de cette histoire, et puis après avec toute l'équipe qui a rejoint et qui continue à rejoindre. On est parti à zéro, et en partant à zéro, et en profitant évidemment d'une révolution technologique, industrielle, civilisationnelle, à l'orée de laquelle nous sommes tout juste. Vous savez, quand Mediapart est annoncé en 2007, c'est l'année où sort le premier smartphone. Il n'y a pas encore les tablettes, et les smartphones n'ont même pas toutes les... Ils ne pouvaient pas prendre de photos, ils ne pouvaient pas... Nous avons accompagné le début de l'explosion de cette révolution, que je tiens aujourd'hui, plus ça va, comme une révolution de la même ampleur que l'invention de l'imprimerie. En clair... Potentiellement, ce qui se passe, c'est que le savoir n'appartient plus au clerc. C'était ça l'imprimerie, qui va donner l'esprit des Lumières, qui va donner les espérances démocratiques, mais évidemment un long chemin, ombre et lumière, des martyrs, Giordano Bruno, je prends celui-là, mais je pourrais parler de Michel Servet, je pourrais parler de cet imprimeur que j'ai oublié, qui a été brûlé à Maubert Mutualité, enfin bref. C'est un moment à la fois d'ouverture, de découverte, la question de l'autre, les essais de Montaigne, le premier livre à la première personne, et en même temps, vous le savez, de régression, d'ombre, de destruction, de colonisation, d'empire, d'esclavage, etc. Je pense qu'on est dans un même moment de transition, progrès, régrès. Et nous, eh ben, notre petit esquif, il est parti sur ce fleuve.
Alors, on sait, voilà. Petit esquif est devenu quand même assez significatif. Vous êtes aujourd'hui 46 journalistes. Je voudrais revenir à vous et comprendre ce qu'il a fallu d'énergie chez vous. Là, on parle au lendemain du monde et finalement des blessures. Vous nous l'avez raconté hier, avec lesquelles vous sortez. Où allez-vous puiser pour cofonder Mediapart?
Alors d'abord, j'aimerais bien revenir sur l'idée de l'esquif, parce que certes, ça grossit, mais il faut pas que ça fasse de gras. Moi, je compare souvent Mediapart, comparaison est tendancieuse, à ce qu'on appelle les go-fast dans les Caraïbes de ma naissance. Alors c'est plutôt pour les trafiquants de drogue, donc nous ne trafiquons pas de la drogue, nous donnons des choses utiles au public, mais le go-fast, c'est le petit bateau que même les douaniers n'ont pas le temps de voir. C'est cette souplesse-là que j'aime. Comment dire sur l'énergie Moi, je pense que la vie, c'est un combat, quoi. Je sais pas comment vous dire autre chose. Souvent, on m'a posé cette question, on me dit, mais comment? Alors, c'est vrai, les blessures sont là, hein. Les blessures, c'est quoi? C'est des empreintes. C'est des traces, justement, hein. Il y a la trace de l'échappée, puis il y a la trace de la marque. Les blessures, en fait, elles ne guérissent jamais. C'est-à-dire qu'elles se cicatrisent, mais évidemment, n'importe quelle violence peut vous les rappeler, vous les avez en même temps, comment dire, elles vous ont forgé, elles vous ont fait, elles ont tanné votre peau. Alors, comment dire, je m'interroge, et je n'ai pas d'autre réponse à vous donner qu'une réponse un peu littéraire qui vient de ma jeunesse algéroise, algérienne en l'occurrence, puisque c'est Atipaza. Dans Retour à Tipaza, qui est dans le recueil Noces et qui fait suite aux Noces à Tipaza, hein, c'est là que j'ai compris ce qu'aimer veut dire, gloire et tout. Et dans Retour à Tipaza, Camus, qui écrit ça, je crois, c'est l'année ou 52 ou 53, je suis né en 52, donc à peu près au moment de ma naissance, c'est le Camus qui commence à être incompris. Et Camus dit à un moment cette phrase, c'est ici que j'ai compris qu'au creux de l'hiver, il y avait en moi un invincible été. Et moi, je me dis, je crois que j'ai, par un hasard du parcours, du cheminement, et quelles que soient les épreuves, les tristesses, il y a un été invincible. Il est là, c'est une lumière, c'est une chaleur et tout. Donc, comment dire, Mediapart, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je savais ce dont je ne voulais plus. Et je savais les compromis que je ne ferai plus, parce que, voilà, on est dans une autre histoire, il faut avec une longue cuillère discuter avec un tel, etc. Et puis je savais quelle bataille je voulais mener, qui, contrairement à ce qu'on pense souvent, n'est pas la bataille du contenu. Je n'avais aucun doute qu'on ferait un bon journal. Je venais avec François Bonnet, qui pour moi, si j'avais continué au Monde, aurait été mon successeur à la direction de la rédaction. Je venais avec Laurent Mauduit, qui était l'un de mes adjoints. Je venais avec Martine Orange, qui menait l'enquête économique. Compris, il nous a quitté depuis, Fabrice Lhomme, qui avait été au Monde, et Fabrice Arfi, ils ont fait tandem au tout début. Je savais que ce journaliste d'enquête que j'ai toujours défendu, on savait le faire, et on le ferait, et on était des canardiers, et François Bonnet est un formidable canardier, un tombeur de journal, hein, tomber une édition, et là il faut te faire tomber 3 éditions par jour. Donc ce côté d'artisanat du métier, je savais, je n'avais aucun doute qu'on réussirait. En revanche, le vrai défi, et nouveau malentendu, parce que les gens ne me voient pas comme ça, pour moi c'était un défi d'entrepreneur. J'avais vu au Monde que la richesse que je créais, pas seul, que nous créions collectivement, parce que le Monde va connaître ses plus belles années. À partir de 94, on va doubler le Figaro, le Monde va faire ses ventes historiques, va être vraiment une réussite. C'est un peu l'acmé de ce journal, le journal complet, avant que le numérique vienne rattraper tout ça. Un journal qui devenait indispensable et qui était jalousé. On disait dans les rédactions, on attend de voir qu'est-ce qu'il y a le Monde, qu'est-ce que sort le Monde, etc. Et donc, on avait réussi ça. Et ça marchait. Et pendant qu'on faisait ça, d'autres détruisaient cette valeur. Utilisaient le numérique pour défendre ce modèle gratuit, sur lequel je n'avais aucun contrôle. Ça a été ma première défaite au Monde. On ne m'a pas donné le contrôle du numérique. Et donc, ce que nous défendions en disant ça, ça a de la valeur, parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a de l'originalité, parce qu'il y a de la qualité, et donc ça a un prix. De l'autre côté, il le bradait gratuitement dans l'illusion, qui est une erreur industrielle que tous les médias feront à cette époque, de l'illusion spéculative. C'est là où j'apprends les mots EBITDA, qui remplacent le mot chiffre d'affaires, ce sorte de calcul pour dire qu'au fond, la valorisation de la filiale numérique du Monde allait être beaucoup plus forte par le tout publicitaire et finalement finir par dévorer le vieux Monde. Tout ça était une imposture et une illusion. Et donc, mon défi, après avoir vu, et c'est la raison de la crise économique du Monde et de la façon dont le Monde finalement sera vendu, avoir vu au moment de la crise, quand le couvercle a été soulevé, que ce que nous rapportions était dilapidé par d'autres, eh bien moi, mon défi, c'était de dire, vous allez voir, en faisant rien que du journalisme, 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 eh bien, on peut créer de la valeur. Et donc, mon défi était vraiment un défi d'entrepreneur, à tout point de vue, pas seulement les résultats économiques, la culture d'entreprise maison, le droit du travail, comment faire que le numérique ne nous fasse pas régresser du côté de la précarité, les tarifs des piges, la question des photographes, et de comment... En fait, toutes ces questions, comment défendre les valeurs que nous défendons dans nos articles, y compris en termes d'entreprise. Et finalement, cet apprenti militant révolutionnaire, trotskiste de sa jeunesse, finalement, son accomplissement, c'est d'être un patron d'entreprise.
Est-ce que vous avez aimé vous découvrir entrepreneur ?
J'aime organiser. On n'en a pas parlé, mais vous savez, dans ma jeunesse, parmi mes échappées, j'ai souvent voulu échapper probablement à... Je ne sais pas pourquoi, j'avais des parents aimants et Dieu sait si je suis reconnaissant à toute cette histoire. Et en même temps, je crois que j'ai toujours pris des tangentes. Et en Algérie, j'ai très vite pris une tangente par des camarades de classe qui étaient des grands Hollandais de retour d'Indonésie, qui n'était plus une colonie hollandaise, fils de pasteur. Et bien que mécréant, issu d'un père catholique, d'une mère protestante, mais qui tous les deux avaient abandonné ça, je suis le premier Plénel non baptisé. Et ayant fréquenté d'autres univers, on pourrait dire le quimbois antillais, qui est le vaudou antillais, un islam tolérant, et puis le judaïsme très présent, laïque, dans les organisations militantes de l'après 68, je me suis retrouvé dans une troupe d'éclaireurs unionistes.
Qu'est-ce que vous faisiez ?
J'étais chef de patrouille, la patrouille des lynx toujours aux aguets. Et j'aimais bien. Et j'aimais bien organiser, j'aimais bien construire, j'aimais bien, comme j'ai bien aimé, être un cadre intermédiaire de la Ligue, organiser des réunions, des manifestations, etc. J'ai toujours bien aimé faire.
Oui, il y a un passage quand même qui se fait, c'est que aujourd'hui, là j'ai sous les yeux le petit livre rouge que vous sortez tous les ans et qui rend compte finalement de la réalité, j'allais dire, comptable de Mediapart. Aujourd'hui, c'est une entreprise florissante, c'est 17 millions de mémoire de chiffre d'affaires. À l'extrême gauche, on n'aime pas beaucoup parler d'argent.
Moi, j'ai jamais eu de gêne avec ça. Jamais eu de gêne. Je crois que c'est pas l'extrême gauche, c'est la culture française qui a un problème. J'ai toujours, par exemple, à Mediapart, insisté pour que les salaires soient publics, que la hiérarchie des salaires soit publique. Elle est de 1 à 3,7. Mon salaire étant le plus important, qui brut avant imposition et etc. est de 7 600 euros, ça me fait à peu près 4 000 euros. Bon, voilà, c'est un bon salaire, c'est normal. Donc tout ça, comment dire, tout ça, j'ai toujours eu un rapport. Alors là, je ne sais pas d'où ça vient culturellement. Je veux dire, parler d'argent n'est pas un gros mot. Dénoncer la spéculation financière, la fraude fiscale est une chose, mais savoir combien les gens gagnent. Par exemple, je vais vous donner un détail sur quand je vous parle de bataille sociale. Il y a des métiers différents dans un journal. On construit un journal numérique. Au début, on est 25 journalistes et il y a un seul informaticien. On externalise. Et puis finalement, on s'aperçoit que non, c'est des vraies compétences, que tout le monde doit être autour du contenu. Donc ici, tous les métiers et l'équipe technique n'a cessé de grandir. Comme on a inventé du marketing, comme on a inventé une pratique sur les réseaux sociaux, on essaye d'inventer des choses. Eh bien, j'ai dit tout de suite, il faut que quand il y a une catégorie qui a un avantage social, il faut qu'elle vaille pour tout le monde. Voilà, c'est pas de la naïveté, c'est comment on crée. Ça n'empêche pas qu'à Mediapart, il y a pu y avoir des problèmes internes, il y a pu y avoir des souffrances au travail. C'est un journal qui oblige à l'excellence. Donc nous avons eu des burn-out à Mediapart, nous avons dû penser des procédures au niveau de comment prévenir des problèmes de souffrance au travail. Quand nous traitons les questions des violences faites aux femmes, y compris dans le monde du travail, eh ben nous faisons une formation ici à Mediapart sur le harcèlement et les violences sexuelles. Enfin, des choses qui... Voilà, donc comment dire, je ne sais pas d'où ça me vient... Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, et probablement c'est un des énièmes malentendus par rapport à la façon dont on me voit parfois, au fond, j'aime beaucoup m'accomplir dans le fait d'animer une équipe, d'écouter les uns et les autres, faire attention à l'écoute, à la bienveillance. La conférence du matin, tous les jours, elle est ouverte à tout le monde, y compris les autres métiers de la maison, avec même une retransmission, puisqu'une partie aujourd'hui des effectifs sont en province. Je n'essaye pas de dire que c'est parfait. J'essaye de dire que c'est une œuvre collective qui a essayé de créer une culture qui l'oblige à affronter ses problèmes et à s'améliorer. Et comme j'aime le dire, pour moi, et avec un peu d'émotion, c'est l'accomplissement de ma vie.
Mediapart.
Oui.
Vous vous êtes découvert chef d'entreprise dans cette aventure. De fait, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez appris sur vous-même avec Mediapart en 44 ans de métier, des choses que vous n'avez pas eu l'occasion de voir dans d'autres circonstances ?
Bon, ce que j'ai eu à la fois à vivre, à faire et à apprendre avec Mediapart, c'est, j'hésite sur le bon mot, donc je vais en dire plusieurs, c'est la médiatisation, la notoriété, la visibilité. Évidemment, une des clés pour Mediapart, ce qui pouvait servir Mediapart, c'est le fait que l'un des cofondateurs soit un peu connu, ait une histoire, hein, les 25 ans au monde. Au tout début, vous savez, les journalistes, ils appelaient, ils disaient « j'appelle pour le journal Mediapart ». Ah bon, c'est quoi ? Donc ils étaient obligés de dire « vous savez, c'est le journal créé par Edoui Plenel ». Bon, cette personnalisation, j'aime dire aujourd'hui, Mediapart n'a pas de moustache. Hein. Bon. Mais le problème, c'est qu'il a fallu jouer de ça. Il a fallu accepter que j'aille, y compris dans la façon dont j'ai fait certains livres qui accompagnaient Mediapart et qui sortent au moment des anniversaires de Mediapart, c'était un moyen pour être présent dans les médias, quand les médias ne nous donnaient pas la parole. Et aller, comme je dis souvent, dans des lieux de perdition audiovisuelle, où ces émissions qui mêlent le sérieux, le divertissement, c'est l'état aussi du spectacle télévisuel, y compris sur le service public, pour faire connaître Mediapart. Donc, j'ai dû apprendre à être dans l'arène. Et pas seulement l'arène médiatique. L'arène aussi, parce que c'est ça la nouveauté pour moi de Mediapart, c'est le lien avec le public. Le virtuel, c'est du réel. Je n'avais jamais connu ça avant. Les demandes de réunions en province, de débats, de rencontres, de conférences. Et nous l'avons fait, nous l'avons pratiqué, y compris en faisant des événements qui comptent. Toujours aujourd'hui, quand on traite un des sujets de Mediapart et qu'on fait une réunion en province, il y a foule, il y a du monde, etc. Donc là, j'ai appris à maîtriser quoi ? Se soigner, hein, plus le singe monte au baobab, plus il monte ses fesses, donc ne pas être dupe de cette notoriété. On la vit tous à Mediapart, mais celui qui est le plus repérable dans la rue, les gens de tout milieu vous disent « bravo, merci pour ce que vous faites, je suis pas d'accord avec vous, mais heureusement que vous êtes là ». On entend ça de tout milieu, et notamment dans les classes populaires par rapport à au côté... Il y a une notoriété de Mediapart qui est le côté Robin des Bois. Alors, je sais pas qui est frère Roger, qui est, etc. Mais Robin des Bois, ben voilà, nous, on prend pas de l'argent, des impôts indûment levés pour le donner au peuple. On prend des informations indûment cachées pour le donner au peuple. Donc, mais il faut pas en être dupe, hein. C'est le côté vu à la télé, mais ça a aidé Mediapart. Et quand vous me demandiez, est-ce que vous avez appris quelque chose? Il y a quelque chose que j'ai appris. C'est, aussi, j'ai toujours eu une certaine aisance pour parler comme ça, mais parfois je crois que ça se bousculait beaucoup. Et comme souvent les bavards, derrière le côté bavard, je cache une certaine, pas timidité, mais une opacité, comme dirait Édouard Glissant. Hein, on a le droit à l'opacité. Et en fait, je crois que j'ai appris aussi à mieux poser ma parole, à mieux transmettre, à mieux expliquer, à mieux dire.
Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui, en fin de compte, à Mediapart ? Une figure tutélaire ou un animateur de la rédaction ?
Non, je suis pas... La rédaction vit... Mediapart peut sortir sans moi. Hein. La rédaction vit tout à fait sans moi. Moi, j'ai coutume de dire, voilà, je suis une tête de gondole, un porte-drapeau, voilà. Il y a besoin de ça. Il y a un moment ou un autre où je passerai la main. Dans l'écosystème interne, tout le monde monte à prendre des responsabilités. Donc, de cette manière, ça, c'est bien qu'il y ait encore Marie-Hélène Smiéjean et moi, les deux de la génération fondatrice qui accompagnent cette transition. Mais nous sommes déjà dans cette transition. Nous l'avons réussi au niveau juridique puisque Mediapart n'a plus d'actionnaires. Nous ne sommes plus actionnaires de Mediapart. C'est un fonds pour une presse libre qui le contrôle.
Expliquez ça. Donc, c'est pour sanctuariser l'indépendance.
Sanctuariser le capital. On a essayé de trouver une invention juridique après toutes les inventions qu'a fait Mediapart. Semblable un peu à ce qui existe dans le monde anglo-saxon, je pense notamment au Guardian, et qui tout permet de tirer les leçons des défaites qui ont eu lieu au Monde et à Libération, où l'actionnariat salarié a perdu, dès qu'il y avait des difficultés économiques, enjeux de pouvoir et défaites. Et donc on a cherché à inventer quelque chose, on s'est inspiré de ce statut des fonds de dotation qui avait été créé pour la culture en 2008, et on a créé un fonds de dotation, ça veut dire une structure à but non lucratif, qui ne nous appartient pas, nous en sommes les inventeurs, mais elle nous échappe, avec des personnalités qui l'animent, et qui a une mission d'intérêt général, aider à l'indépendance de la presse, au pluralisme de l'information, à défendre le journalisme, et dans le cadre de sa mission d'intérêt général, qui lui permet de recevoir des dons défiscalisés, elle va aider, ça c'est tout nouveau, hein, elle va aider des médias indépendants divers autres que Mediapart, mais dans le cadre de sa mission d'intérêt général, elle contrôle 100% du capital de Mediapart, lequel doit en revanche renvoyer une partie de ses résultats. Nous ne touchons pas d'argent de ce FPL, mais en revanche, nous devons lui renvoyer une partie de ses résultats pour aider à cette cause d'intérêt général. En clair, c'est créé, on verra comment il prospérera, un modèle alternatif à ce qui s'est passé dans le milieu médiatique, où, en fait, ce sont des oligarques industriels extérieurs au métier de l'information qui ont repris tous les médias, lesquels, par ailleurs, ont comme béquille des subventions d'État auxquelles Mediapart s'est refusé. Mediapart ne vit que des abonnements de ses lecteurs.
Vous vous voyez comme le continuateur justement d'une histoire qui n'a pas eu lieu au monde, qui est celle de l'indépendance financière.
Nous, dans nos textes, depuis le début, hein, on a repris, on n'est pas les inventeurs, mais on a repris évidemment les éditos d'Albert Camus. Camus, quand même, dans ses éditoriaux, disait qu'il fallait libérer la presse de l'argent. formule que reprendra d'une autre manière à son compte Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, notamment dans une conférence célèbre des années 50 où il parlera de la presse d'industrie, en expliquant que la presse d'industrie, et nous l'avons sous les yeux aujourd'hui, c'est pas le fait que la presse soit une industrie, qu'elle ait besoin d'être profitable pour être saine, pour ne pas être en difficulté. C'est le fait que des industriels prennent la presse, vous laissent faire votre travail et même brillamment tant que vous ne dérangez pas leurs intérêts. Mais en revanche, si vous dérangez leurs intérêts, ils vous en empêcheront. Et donc on a repris cette bataille qui a été la bataille de la Société des rédacteurs du Monde, la Société des personnels de Libération, la bataille perdue déjà à combat par Camus. Bon, voilà, c'est une bataille ancienne. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait des journalistes qui seraient mauvais parce qu'ils seraient dans des journaux propriété d'industriels privés. Je crois que simplement dans un écosystème, et c'était la fonction du Monde et de Libération quand ils étaient indépendants, ça aide. C'est l'écosystème qui permet un équilibre et une pluralité.
Alors vous avez partiellement répondu en évoquant la sanctuarisation avec cette structure juridique qui pérennise l'indépendance de Mediapart. Mais d'un point de vue plus général, comment est-ce que vous voyez Mediapart après vous?
C'est pas un joker, hein, mais j'ai comme formule face à ce genre de questions de dire que les journalistes doivent être interdits d'avenir, de futur. Pourquoi ? Parce que ici, on commence à prendre le risque de prévenir le futur, on se nie nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que le journaliste, pour moi, c'est la disponibilité à l'imprévu, à l'événement, à l'inattendu. Notre messie, c'est celui-là, hein, c'est l'événement, l'imprévu, l'inattendu. Je dis ça parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, dans le Talmud, il est interdit de prédire l'avenir. Parce que si l'homme se met à prédire l'avenir, il se met à la place de Dieu. Et il empêche cet événement qui peut arriver un jour ou l'autre, qui est l'avènement du messie. Donc, qui aurait prédit les Gilets jaunes ? Qui aurait prédit les révolutions arabes ? Qui aurait prédit, y compris, le succès de Mediapart ? Moi, j'ai dans mon volontarisme, et la blague à Mediapart, c'est de dire « Ah, t'avais déjà promis de raser ta moustache à 100 000, à 150 000, etc. » Bon, je dis aujourd'hui, à 170 000 abonnés, vu le rythme de croissance, si on ne fait pas de bêtises, je crois qu'au moment de la présidentielle, si elle a lieu en 2022 ou après, bah, il n'y a aucune raison que Mediapart n'arrive pas à atteindre les 200 000 abonnés, à continuer sa croissance. Il y aura peut-être un plafond de verre un jour, je ne le sais pas. Donc, pour moi, le Mediapart du futur, c'est surtout que nous ayons, nous les fondateurs, créé les conditions qui fait que c'est une situation totalement saine. L'indépendance structurellement garantie, pas d'endettement, une équipe qui a grandi ensemble et qui a appris quelque chose de collectif, qui a une culture collective. Après, cet avenir dépendra des épreuves qu'ils traverseront. Mon propre chemin, il est fait de plein de choses que j'ai rencontrées et que j'avais pas prévu de rencontrer. Vous connaissez le poème d'Antonio Machado, ce poète mort dans la retirada républicaine espagnole à Collioure, hein. Caminante, no hay camino. Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Et le randonneur que je suis, il aime bien ça. Hein. C'est comme ça qu'on découvre un paysage inattendu, une difficulté inattendue.
Alors je vous propose, Edouard Plenel, de continuer à cheminer avec vous demain. Merci beaucoup.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Rémi Dibowski-Douat avec Edouard Plenel. À voix nue, réalisation Laurent Polleré, prise de son Yvan Turc, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr.